Cette émission est une rediffusion.
Le Tropical.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, bonne arrivée, la famille nombreuse. Demain, notez Couleur Tropicale spéciale Libre Antenne, ambiance génération consciente. Et les sujets, vous le savez, ne manquent pas. Vous pourrez donc vous exprimer sur des sujets légers ou des choses qui correspondent à l'actualité, à ce qui fait bouger le monde. C'est à vous de donner le ton de l'émission et vous le savez, et je le répète, tous les sujets sont permis. Vous pouvez parler musique, vous pouvez également évoquer ce qui vous touche plus personnellement. De notre côté, nous recevrons la lauréate ou le lauréat du prix Découverte RFI et nous évoquerons également des décisions historiques pour l'Afrique et les Afro-descendants. Je vous redonne le numéro de notre, parce qu'il faut que vous puissiez vous inscrire, le numéro de notre WhatsApp 00336 37 42 62 24, 00336 37 42 62 24, et vous laissez votre nom, le sujet que vous souhaitez aborder, et on vous rappelle afin que demain vous soyez en direct sur RFI. Mercredi, pas d'émission, il y aura foot. Voilà, hein, pour ceux qui aiment. Jeudi, Couleur Tropicale sera consacrée aux grandes voix mandingues et au masculin. Ce sera le deuxième volet. Et puis vendredi, nous recevrons Monsieur Youssou N'Dour. Le grand Youssou viendra nous... Rokia Traoré sera notre invité. Mais pourquoi j'ai... Mais Youssou, c'est quand? C'est pas là, c'est pas... Ah ben oui, c'est un petit peu plus tard, pardon. Rokia Traoré sera notre invitée et Rokia Traoré viendra justement nous parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a subi et elle nous dira tout l'espoir qui est là dans son cœur. En ce jour, au lendemain d'une annonce que personnellement j'attendais depuis plus de 20 ans, en attendant d'en parler avec nos invités dans quelques minutes, sachez que le Togo a vu sa proposition adoptée par les États membres de l'Union africaine. Le sujet, la déportation des Africains, l'esclavage des Africains et des Afro-descendants et la colonisation sont désormais qualifiés par les instances africaines, l'Union africaine, de crimes contre l'humanité. Cela donnera probablement naissance à une journée du souvenir. C'est un jour historique en tout cas, un jour de dignité, d'hommage rendu à toutes les victimes et à leurs descendants. Merci aux instances togolaises qui ont mené ce combat-là. En ce jour, nous recevons deux personnalités qui connaissent justement l'ampleur de cela, l'ampleur de certains crimes et de la relégation. L'un parce qu'il est né en Côte d'Ivoire et qu'il connaît l'odeur de la soumission, mais l'odeur également des cultures sublimées. Alors, il chante.
Arrête un peu de nous juger. N'est pas figé, pourquoi tu veux nous dégager?
C'est ça.
On est déjà tous mélangés.
Thomas Sibibé nous présente Dakan, son nouvel album. Notre second invité sait ce que fut la violence de la servitude, car il est afro-caribéen de la Martinique, mais aussi parce qu'il fut arbitrairement, injustement détenu au Mali. Au Niger, mais enlevé au Mali durant 711 jours. C'est le journaliste Olivier Dubois.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein.
Olivier Dubois et Thomas Sidibé, bonne arrivée. Merci d'être là dans l'antre de la génération consciente ici à RFI.
Merci à toi, Claudie. Bonsoir.
Alors, je raconte tout au moment où j'entre dans le studio. Moi, j'arrive toujours à la dernière minute, mais les invités sont déjà installés. Vous étiez en train de discuter parce que vous avez tant de points communs tous les deux. Vous êtes deux Maliens d'adoption, si je puis dire. Alors, avant qu'on en parle un petit peu plus, vous connaissiez-vous, aviez-vous eu vent l'un de l'autre ?
Moi, j'avais eu vent de lui. Moi, Thomas Sidibé, j'avais eu vent de lui. J'ai entendu parler de son histoire, évidemment.
Évidemment.
Donc, je le connaissais déjà. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre.
Voilà, c'est la première fois pour moi. J'avais pas entendu parler de lui. On s'est rencontrés tout à l'heure dans le hall et on a fait connaissance.
Alors, j'explique. Thomas Sidibé est un natif de Côte d'Ivoire, même si sa picardie peut se voir sur lui, sur son visage. Mais c'est un Ivoirien malien d'adoption. Le Bambara est l'une de ses langues, j'ai presque envie même de dire, est devenue une langue maternelle pour toi. Hein, on pourrait même extrapoler, aller jusque-là. Et puis, Olivier, Olivier Dubois, malien d'adoption, martiniquais certes, né à Créteil, oui, d'accord, mais malien aussi.
Oui, enfin, oui, correspondant au Mali pendant 6 ans, si je rajoute les 2 ans de captivité, 8 ans. Et oui, le Mali, c'est une grosse partie de ma vie quand même, là. Ouais. Professionnelle, en tout cas, oui.
Est-ce un pays de cœur ?
Ah oui, c'est un pays très accueillant et un pays de cœur. On reste pas, c'est ce que je dis, on me demande souvent, mais pourquoi tu es resté autant de temps au Mali ? On reste pas dans un pays qu'on n'aime pas. Et c'est un pays où j'ai, voilà, il s'est passé énormément de choses et que j'ai beaucoup aimé, moi et ma famille.
Thomas, ton actualité, c'est l'album Dakan, sorti le 10 janvier. Dis-moi, yeah. C'est ça ?
C'est ça même.
D'accord, parce que.
Exactement.
Comme quand tu me regardes comme ça, je ne veux pas me tromper. Il y a dans ce message-là quelque chose qui correspond à ce que tu as toujours fait précédemment. Et je parle des messages, je ne parle pas de la musique, parce que ce sont de nouvelles chansons. C'est être un passeur de culture.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai la chance, comme tu l'as dit, d'être né en Côte d'Ivoire, un pays incroyablement merveilleux,
mais oui.
De joie et de richesse culturelle, d'avoir grandi en Picardie et d'avoir vécu longtemps au Mali. Donc, je suis à cheval sur toutes ces cultures-là. Donc, c'est vrai que je suis imprégné, mon identité elle est plurielle et je suis imprégné de toutes ces cultures. Donc quand je t'entends parler de la génération consciente, moi j'ai fait ma révolution des consciences.
Mais oui, et on va en parler parce que ce titre-là, c'est l'un des titres de l'album et tu imagines bien qu'il a retenu notre attention. Olivier Dubois, tu viens de faire paraître chez Michel Lafon, aux éditions Michel Lafon, Prisonnier du désert, 700 jours aux mains d'Al-Qaïda, un journaliste en enfant. Faire.
Bah, c'était oui. Enfin, 711 jours. Chaque jour était important. Oui, enfin, en enfer. Oui, quelque part, c'est un enfer, mais un enfer qui se. Voilà, avec une sortie et ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que les 2 ans, c'est quasiment 2 ans, n'ont pas été faciles.
Est-ce parce qu'on est toujours dans le journaliste, quoi qu'il arrive, est-ce que pour toi, ces moments-là, dis-moi si mon propos est déplacé, est-ce que c'était également le moment d'essayer de comprendre le combat de ces gens ?
Ah mais j'ai eu l'occasion et c'est un peu le but que je m'étais fixé. Je suis à l'intérieur, essaye de comprendre pourquoi ils font ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu avoir des débats, des discussions avec eux, où justement on a pu confronter ça, leurs arguments par rapport à cette question. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous tuez ? Pourquoi avoir besoin de tuer au nom de Dieu ? Et oui, ça a été possible.
Y a-t-il eu des réponses satisfaisantes ou acceptables ?
Alors, il y a eu leurs réponses, et moi, je ne suis pas d'accord avec leurs réponses. Mmh. Pour eux, c'est dans le livre, c'est dans le livre sacré qu'est le Coran. Il faut imposer la foi en Allah partout sur la terre, et avec les armes s'il le faut. Et j'ai l'impression que Dieu n'a pas besoin d'hommes armés pour le représenter et pour diffuser sa foi. Donc, c'est là où on était, on n'était pas d'accord.
À chacun son interprétation ? Et on le voit sur bien des livres saints dans notre histoire de l'humanité. Thomas et Olivier, je le répète, ce qui vous unit, c'est le Mali.
Jeunesse malienne à la main qu'on s'aimait. Aujourd'hui au Mali courra, l'espoir est né. Dans son âme il portera la sagesse d'en bas et bas. La volonté de Babemba. La puissance et l'intelligence de Sundiata. Alors, Iki Jija, Iki Willy. Machit Seki Doroya, Machit Seki Neni.
Thomas Sinibé, elle est sur scène. Elle est sur scène, le gars. Mali Koura, le titre donc signé de notre Thomas Sinibé. Mali Koura, traduction ?
Le nouveau Mali. Le nouveau Mali, il y a eu un grand vent d'espoir là, suite à la chute d'Ibeka et l'arrivée de Assimi Goïta et de la junte. Un vent d'espoir en fait de reprendre, que le Mali reprenne son destin en main, en vrai. En fait, cette chanson, elle parle de ça. Elle parle de moi, en fait, les Maliens, c'est mes potes, c'est mes amis, c'est mes sœurs, c'est mes mamans, tu vois. Donc je vois toute cette énergie, cet espoir qui est né.
L'espoir.
Et donc cette chanson-là, elle parle de ça.
Et pour toi, Olivier, est-ce que tu es comme Thomas, tu as senti cet espoir, ce besoin de changement pour vivre mieux au Mali ?
Alors à la chute du Bika, moi j'étais justement en place de la liberté, j'ai pu sentir en tout cas cette aspiration à un Mali nouveau de la population. Maintenant, est-ce qu'on est dans un Mali nouveau ? Je ne sais pas, le pays me semble en transition, il y a vraiment un avant et un après, on verra, mais j'espère pour eux en tout cas qu'on y arrivera. Mais ce Mali Koura, il est appelé de ses voeux depuis très longtemps.
Moi en fait, quand je dis Mali Koura, en fait, le Mali Koura doit s'inspirer du Mali Corolien. Ça veut dire que le nouveau Mali, justement, doit s'inspirer de l'ancien Mali. Mm-hmm. C'est-à-dire de reprendre les valeurs, les vraies valeurs.
C'est ce que tu dis dans le titre.
Voilà, c'est ça.
Ouais, exactement. Mais écoute, tu parles également de la force de l'identité dans bien des titres de cet album-là. Voici une chanson qui résume bien nos deux invités, ce que vous êtes, Olivier Dubois et Thomas Sidibé, tous mélangés.
D'Alexandrie à Brasilia, au bord du Gange, au bord du Tage, mes mélodies sont mes visas, ma bonne étoile dans mes bagages, au bout du monde ou à Amiens, Bamako, Casa, Zanzibar. Je vous invite pour un refrain, l'amour comme unique étendard. Moi je suis afro-picard, franco-bizarre, je garde en mémoire ma Côte d'Ivoire, dans mes placards, clichés bavards, mes aïeux juifs sur la mer Noire, côté maternel, bord de Loire, on trinque en récitant Ronsard, dans mes tiroirs comme dans mon arc, j'ai mélangé tous les terroirs.
Thomas Sidibé en direct sur RFI. Écoute ça!
Arrête un peu de nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés, tous mélangés.
Allez, mélangement, mélangement, la famille. C'est comme ça aujourd'hui, tous mélangés, frère.
De haine, de colère, tu en es la cible à l'occasion. Car t'as l'ADN de couleur, tu rentres pas dans leur petite case. Y'a des héros qui font France, qui portent des valeurs de partage. Y'a des escrocs à l'âme rance, prône l'identité sarcophage. On va exploser les clichés, déconstruire les idées reçues. Notre jeunesse est métissée, évitons tout malentendu. La France a toujours accueilli des influences du monde entier. Liberté, égalité, fraternité, diversité. De nous juger, l'identité n'est pas figée. Pourquoi tu veux nous dégager? On est déjà tous mélangés. Tous mélangés. On est déjà tous mélangés. Tous mélangés.
Allez, mélangement, mélangement, la famille.
Tous mélangés.
Tous mélangés. La chanson la plus fredonnée au sein de l'équipe de Couleur Tropicale. Et pour cause, regarde-nous tous, on est tous mélangés. Il y a toutes les couleurs, toutes
c'est
les origines,
voir,
tous les continents.
Voilà,
bah oui, parce que c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Justement, Thomas, je connais ton humanisme et depuis longtemps. Cette chanson s'inscrit-elle dans un contexte politique particulier, et plus précisément dans un contexte très français et son repli identitaire?
Oui, alors ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que cette chanson, je l'ai écrite en fait pour un projet qui s'est fait dans la ville d'Amiens, où en fait les jeunes collégiens devaient raconter, auprès de leurs parents, les questionner sur justement sur leurs origines. Et de ce projet sont nés des textes que les jeunes ont écrits et qui ont été illustrés par des dessins. On m'a demandé, en tant que gars vraiment mélangé, de faire la préface. J'ai dit non, je ne vais pas faire une préface du bouquin, je vais faire une chanson. Et c'est cette chanson-là qui est née comme ça. Donc c'est un hommage, en fait, à toute la force du mélange qu'on peut avoir en France, qui est souvent vu justement comme quelque chose de négatif, et que moi, je trouve, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait sans ce mélange en France ?
Mais surtout aujourd'hui. Mais alors, Amiens, la ville du président de la République.
Pardon. Je te dis.
Olivier, parce que j'ai vu Olivier réagir au moment où tu parlais justement de cette diversité, de ce mélange, et l'histoire qui est la nôtre, l'histoire de ce pays, et je me tourne vers un Afro-Caribéen de la Martinique, c'est justement la diversité ethnique et religieuse, c'est la somme de son histoire, c'est la somme de l'histoire d'un pays, et un pays qui aujourd'hui semble ne pas vouloir accepter sa population. Et dans cette diversité, est-ce que le journaliste Olivier Dubois et le Martiniquais voient ça comme ça? Et comment voit-il tout ça?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours. Enfin, le problème, c'est qu'on a toujours le même problème. C'est ce problème d'absorption, d'intégration, c'est les mots qu'on met. Et ça avance pas vraiment. Ouais, c'est clair. Il y a toujours. On l'a vu récemment avec la Martinique. On peut le voir aussi quelque part avec le Mali.
Alors, tu parles de la vie chère pour la Martinique,
ouais, par exemple.
La question de la vie chère.
Il y a toujours. La devise de ce pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Au-delà du credo, faut peut-être vraiment arriver au bout d'un moment à l'appliquer, quoi.
Elles ont les idées extrêmement mélangées face à nos deux profils comme les vôtres, hein, de vraies personnalités, mais ne vous fiez pas aux apparences, elles sont redoutables. Queen Stelina et Wara Charlotte Gomis.
Bonsoir.
Et on commence avec des questions pour Thomas. Stelina.
Alors justement, tous mélangés, vous célébrez la diversité, l'unité, vous dites que l'identité n'est pas figée. Mais Thomas, pensez-vous honnêtement que ces paroles ont un réel impact dans la société actuelle ?
Oui, alors j'espère bien. Pour moi, justement, c'est le reflet vraiment. En fait, pour moi, c'est une des clés de notre construction. Moi, j'ai des enfants, tu vois, qui ont 19 ans, j'en ai une petite de 11 ans. Je leur dis et je le vois... En fait, on a besoin, je pense, de s'ouvrir. On a besoin, si on reste fermé dans l'endroit où on est né, la culture, la langue qu'on a et qu'on ne s'ouvre pas, eh bien évidemment, on ne va pas pouvoir, comment dire, on ne va pas pouvoir respirer d'autres cultures, s'imprégner d'autres cultures et justement avoir une identité multiple. Et je pense qu'on a, c'est ce qui est kiffant dans la vie, en fait.
Mais c'est ce que veulent certains en érigeant des murs, qu'ils soient sociaux ou physiques.
C'est tous ces murs là qu'il faut défoncer, quoi.
Et la musique est
sauter par-dessus.
Et la musique est là.
La musique, elle l'aide.
C'est de la défoncer.
Ah, ça, vraiment, vraiment, ouais.
Alors, justement, dans le paysage musical actuel, l'appropriation culturelle est un sujet sensible.
Ouais.
Comment vous arrivez à définir la ligne entre l'inspiration culturelle et l'appropriation, justement ?
Écoute, pour moi, c'est justement, c'est quand tu es imprégné avec cœur d'une culture, d'une langue, d'une civilisation, d'une ethnie, de quelque chose, en fait. Quand tu le vis, en fait, c'est de l'inspiration. Ça ne peut pas être de l'appropriation parce que c'est sincère. En fait, c'est le cœur qui parle. Si le cœur parle, c'est sincère. Après, si c'est stratégique, là, c'est de l'appropriation.
Stratégique, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire, tu dis, ah bah tiens, je vais me mettre à faire tel style de musique parce que ça le vend en poupe en ce moment, ou je vais sortir trois mots justement en bambara dans une chanson parce que ça va plaire à une communauté. Non, ça, pour moi, c'est de la stratégie, ça vient pas du cœur, tu vois.
D'accord. Tu n'es pas tout à fait d'accord.
Non, si. Oh, bah, je suis d'accord. D'autant que, regarde, lorsque tout à l'heure, il a dit nous, on nous dit Malikoura, tu vois, il prononce pas comme ça.
Mais parce qu'il parle bambara.
Parce qu'il parle, mais exactement. Exactement, Wara.
Oui. Ouais. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Sidi B. Hein.
Mais oui.
Wara. Alors, Thomas.
Oui. Voilà.
Votre musique.
À Lyon. On t'écoute.
Voilà. Donc, quelqu'un qui me connaît.
Moi, il te connaît.
Il me connaît profondément.
Elle va rugir sur moi comme ça.
On va vous laisser.
Oui, je pense que nous n'avons rien à faire ici.
Oh, mon Dieu. Alors, votre musique emprunte à de nombreux genres. Afro-urbain comme l'afrobeat, l'amapiano et le coupé décalé.
Il y a un peu soukou, j'ai entendu des guitares.
Oui, j'ai entendu. Il y a toutes les sonorités, africaines, vraiment. Alors, pourquoi ces styles en particulier résonnent-ils avec votre vision artistique et surtout politique ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors moi, en fait, depuis c'est mon 7e album, je me suis beaucoup imprégné des rythmes trad du Mali, beaucoup en fait, et avec des instruments acoustiques. Et en fait, là, sur ce dernier album, j'avais envie d'être plus dans une esthétique moderne et d'aller plus justement vers des beatmakers, tu vois, du Nigeria ou de Côte d'Ivoire ou d'ici aussi. Et parce que c'est une musique qui va avec justement la jeunesse, qui va avec une ouverture encore une fois sur le monde. Et je pense que c'est avec cette musique-là aujourd'hui sur laquelle on peut danser, mais sur laquelle on peut réfléchir aussi en même temps. Moi, c'est ça que je veux en fait. C'est faire danser les gens, mais qu'au bout d'un moment, quand ils se mettent à chanter le refrain en boucle, ils se disent « Ah, mais en fait, c'est pas con ce qu'il est en train de dire, les gars. » Tu vois ?
Bah oui, bah c'est ça, l'esprit de la génération consciente. On peut danser en toute conscience. Lorsque tu parles de beatmakers avec lesquels tu as travaillé pour venir apporter un peu de sang neuf à ta discographie, à ton univers musical, mais tu n'as pas cédé à la mode des featuring.
Non, écoute, à part un ou deux dans l'album, Mohamed Diaby qui.
Oui, il y a Mohamed Diaby. Non, mais alors, parce que moi j'ai la pochette avec moi. Oui, il y a Mohamed Diaby évidemment qui
Candy Guira aussi.
Oui, mais là, normalement, tous les gars, c'est telle chanson, featuring un tel, comme si finalement les feats sont indispensables, alors que toi sont des rencontres avec des gens que tu aimes et que tu respectes musicalement. Alors tu as parlé de Mohamed Diaby, tu as parlé de Candy Guira, là c'est Burkina, donc Mali, Burkina, il manque que le Niger.
On va, l'AES en force, on va trouver.
Et là,
on va
tu
trouver.
Fais l'AES musical.
Moi, honnêtement, Claudie, je trouve que les featuring, moi, je trouve que c'est un peu un manque d'inspiration. Quoi. Aujourd'hui, tout le monde fait des featuring. Non, mais... Et je trouve que vraiment, c'est trop. Quoi.
Alors, c'est pas... Pour ma part, c'est pas forcément un manque d'inspiration. On est plutôt sur de la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir
percer, etc. Parfois, tu sens que c'est vraiment. Bah, oui, c'est vrai, ça se rejoint. C'est vraiment de la stratégie. C'est vraiment
c'est
pour faire.
C'est pour ça que j'ai relevé. Voilà, mais... Et il n'y a pas tous les noms. Bravo. Genre pour. Voilà, tu vois, c'est pour ça que
je vends de l'album, etc.
Le charme.
Thomas, tout à l'heure, vous avez parlé de pont et vous avez parlé aussi de jeunesse. Vous travaillez beaucoup avec le jeune public.
Ouais.
Alors, c'est un engagement aussi bien associatif qu'artistique. Quelle importance cela revêt pour vous et comment parvenez-vous à adapter votre message pour les plus jeunes?
Ah, ça, c'est mon kiff, ça. En fait, je fais pas mal de spectacles jeune public.
Il est en train de sourire, il a parlé. Oh, tu souris tout le temps, mais
on sent qu'il aime
son
qu'il
visage.
Fait.
Non, mais son visage,
c'est
qu'il fait, c'est illuminé. Qu'il
donne. C'est très bien.
Il a appuyé sur les tous solaires. Les boutons, toutes les lumières se sont allumées.
C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je fais un spectacle jeune public ou quand je fais un album, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Tu vois, j'ai envie de danser, je danse, j'ai envie de faire de la marionnette, j'ai envie de jouer de la flûte, je fais. En fait, c'est comment je transmets des histoires aux jeunes générations, et je fais des spectacles même pour les crèches, donc vraiment la petite enfance en fait, et j'adore ça, j'adore, c'est-à-dire tu vois là, si on était en crèche, on allait parler comme ça, on allait parler doucement, si je suis avec les primaires là on va envoyer parce que les gars ils ont l'énergie. Donc en fait c'est comment on adapte l'histoire, comment on adapte les musiques pour les différents jeunes publics, parce qu'il y a différents jeunes publics en plus, tu vois,
c'est vrai.
Et c'est vrai que je joue beaucoup aussi à l'hôpital avec mon asso de cœur qui s'appelle un hôpital pour les enfants dont je suis le parrain, à Poitiers. Donc j'aime aussi que la musique soit vraiment un moyen de rentrer en communication, en communion avec l'autre, et particulièrement les enfants qui souffrent, ça leur fait vraiment du bien aux enfants et aux familles. Donc en fait, la musique, c'est vraiment un moyen d'aller vers l'autre, et quand les enfants commencent à avoir des choses comme ça jeunes, et ben ça peut que les emmener, on sait pas où, mais en tout cas, ça va leur amener des choses qui vont garder en eux.
Bah, les enfants, c'est les adultes de demain.
Mais
c'est finalement, parce que c'est pas plus intéressant.
J'allais lui poser la question, et là maintenant, quel ton adopterais-tu avec nous si tu réfléchissais, si tu réfléchissais un petit peu? Fais bien attention à ce que tu vas dire.
On est dans la joie, ça va.
D'accord,
il y a fouille.
D'accord, le septième album dans la discographie de Thomas Sidibé. 10 titres composent cet album-là. Tu as commencé un peu à nous dire comment tu l'avais travaillé. Tu vas pouvoir poursuivre tout à l'heure, parce qu'on va en savoir un petit peu plus. A-t-il été travaillé entre Amiens et Paris, entre Abidjan, Bamako et...
Il y a tout ça dedans.
Il y a tout ça dedans.
Tu as tout dit, là, presque.
Non seulement il est... Mais il est en plus panafricain. Thomas Sidibé.
Ok.
Le 20 mars 2023, après 711 jours otages d'Al-Qaïda, le journaliste Olivier Dubois est libéré. La fin d'un calvaire que personne ne peut imaginer et que son livre témoignage, Prisonnier du désert, aux éditions Michel Lafon, ne pourra que nous éclairer sur la privation de liberté. Juste éclairé.
Fatigué, mais libre. Olivier Dubois est arrivé au Niger. Fin d'un calvaire de près de 2 ans pour ce journaliste français, collaborateur du Point, de Libération ou encore de Jeune Afrique.
C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne l'attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Je me sens fatigué, mais je vais bien.
Olivier Dubois. Non mais pourquoi alors dire, mais pourquoi est-ce juste du spectacle d'applaudir Olivier Dubois? Non, parce que la voix que vous entendez après ces 711 jours de détention arbitraire je ne sais pas si le mot est suffisamment fort ou l'expression pour dire décrire ce que tu as vécu, lorsque nous t'entendons là, tu as la même voix, c'est-à-dire à la fois ce calme. Je sais pas si on peut parler d'un homme stoïque, je ne sais pas comment fais-tu?
Je ne sais pas moi-même, on me pose souvent la question, j'en ai aucune idée, je crois que je fais comme je le sens sur le moment. Et si tu fais référence à ce qui s'est passé pendant ces deux ans, il y a une... moi-même je l'analyse avec, maintenant que j'ai la distance, avec difficulté, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que quand on doit survivre, on est capable de mettre en avant, de déclencher les choses qui sont au fond de nous et qui nous permettent de faire face, de résister, ça doit être un peu ça.
Alors, je vais ouvrir une parenthèse un peu privé, si je puis dire, au moment où tu es détenu, nous sommes des dizaines de milliers et bien plus que ça à parler pour toi, à penser à toi et à essayer d'agir chacun avec ses forces pour toi, pour ta libération. Et au moment, puisqu'on vient d'entendre ce moment de la libération, au moment où tu es sur le tarmac, au moment où il y a le président de la République qui vient, donc c'était à Villacoublay.
C'est ça.
Et je vois un homme à tes côtés, qui est donc ton père. Et là, je me dis, mais... Et je réalise que je connais très bien son père, Georges Dubois. Et je réalise, je me dis, mais oui, mais en plus, il a la même tête que son papa.
Photocopie.
La photocopie. Et ce papa qui s'est évidemment démené, battu pour la libération de son fils. On vient d'entendre, donc je reviens sur ces moments, on vient d'entendre un extrait de ta libération. Est-ce que c'est un épisode qu'on te fait entendre à chaque fois que l'on te reçoit, évidemment? Est-ce que c'est quelque chose qui fait de moins en moins plaisir, ou est-ce que c'est pas très grave de le réentendre, ou est-ce que tu préférais ne plus l'entendre?
Alors, globalement, tout ce qui concerne les audios, les passages, tout ce qui concerne, voilà... tout ce qui concerne dans les médias, ce qui m'est arrivé en captivité, j'ai beaucoup de mal à le regarder, beaucoup de mal à l'écouter. Parce que ça me rappelle que j'étais là-bas. Évidemment, ça me rappelle que ma famille était dans ce moment-là en pleine crise, que des gens, que je faisais peser ma situation sur des gens. Ça me ramène à ça. Et évidemment, ce n'est pas forcément un plaisir pour moi d'écouter ça, ou de regarder ça.
Avant d'aller un petit peu plus loin, dans ces deux années de détention, peux-tu nous raconter ta vie malienne, ton quotidien, puisque tu as évoqué la famille, au Mali, avant tout cela?
Avant tout ça, j'étais au Mali depuis août 2015 en tant que journaliste. J'étais avec ma famille, on vivait là-bas. Au départ, je dois dire, c'était parce qu'arriver au Mali comme ça de Paris, c'était assez déroutant. Et on s'est dit, bon, on reste un an et on part. Et en fait, on est resté 6 ans, enfin plus, si je peux dire ça comme ça. Et c'était la vie d'un journaliste là-bas avec sa famille, avec ses deux enfants. Mes enfants étaient scolarisés à Bamako. Je me levais le matin, je faisais...
Oui, exactement. Liberté, ouais,
tu connais. Et ça a été, moi, c'est une. Voilà, j'ai des très très bons souvenirs de cette période, quoi. Je faisais ce que j'aimais dans un pays plein de richesses, plein de remous, plein de tumultes. On se lève, chaque matinée n'est pas la même. Et j'avais l'impression de faire mon métier comme je voulais le faire et de vivre des choses qui sont extraordinaires.
Aujourd'hui, où es-tu avec ta famille?
Alors, aujourd'hui...
Sans trop en dire, hein, ouais. Sans trop en dire, mais voilà. Est-ce que l'Afrique t'accueillera à nouveau, ou est-ce que
j'espère
tu as besoin,
bien, ouais. Et j'espère y retourner prochainement, c'est peut-être un peu tôt maintenant. On est entre la France et le Sénégal, on a des attaches quand même depuis des années maintenant là-bas, donc voilà, ça fait partie de notre vie, on y retournera. Hein.
Le 8 avril 2021, donc, tu es enlevé. Dans quelles conditions l'as-tu été? Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions tu as été trahi? Ce serait plus juste.
Waouh! Alors, ouais, c'est le gros pavé, ça. Je me rends compte que je suis trahi déjà, pour répondre à ça. Je me rends compte que je suis trahi, pas tout de suite. Hein. Ça mettra du temps, ça mettra même quasiment un an où je commencerai quand même à me dire, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Et puis mes ravisseurs auront à cœur de me dire, tiens, il y a peut-être un problème aussi avec ton accompagnant. Moi, ce que je pense, maintenant, avec le recul, évidemment, on sait plus de choses, c'est que, pour des raisons d'argent, certainement, mon fixeur et l'intermédiaire qui nous fait parler avec ces gens-là ont manigancé, organisé mon enlèvement pour se faire de l'argent. Je pense que c'est ça qui s'est passé. J'étais en pleine confiance sur mon fixeur, avec mon fixeur, une confiance certainement excessive, ce qui fera que je ne verrai pas les signes avant-coureurs qui ont pu être là avant de monter dans le véhicule et d'être donc kidnappé, de partir avec les djihadistes.
Dans ton livre « Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda », au début, lorsque tu es enlevé, j'ai le sentiment que tu réagis, c'est ce que tu écris, tu réagis avec eux-mêmes, avec un peu de véhémence, quoi. Tu n'hésites pas à t'opposer à ce qu'ils sont en train de commettre.
Alors,
résume.
Non, j'essaie de bien. Moi, il y a eu, bon, c'est pas un concours de circonstances. J'ai eu l'impression qu'il m'avait trahi, ceux que j'allais interviewer. J'avais une lettre d'invitation, donc pour moi, voilà, je fais l'effort d'aller voir des gens à qui personne ne veut parler, j'ai une lettre d'invitation, et vous en profitez pour me kidnapper. Ça me semblait un non-sens total. Et c'est ça, je pense, qui va me faire démarrer et qui va me permettre d'enclencher une sorte de résistance mentale, etc. Parce qu'au départ, il y a cette colère-là. Voilà.
Lorsque tu es enlevé, on peut pas tout dire, évidemment. Est-ce qu'on sait à celles et ceux qui nous écoutent de lire ton livre, de l'acheter, de lire ce livre
pour bien
comprendre. Lorsque tu es enlevé, à quel moment sais-tu que tu es au Niger?
Alors, j'ai pas été au Niger, pour moi en tout cas, ils m'ont pas dit où on était exactement, mais pour moi je suis détenu au nord du Mali, dans la région de Kidal, quasiment pendant 700 jours, je pense pas que j'étais une seule, sauf pour sortir, on est sorti par le Niger, mais je n'étais pas détenu au Niger.
Tu es sorti, tu n'es pas resté longtemps au Niger, c'était juste pour au moment où tu es libéré.
Voilà, on a traversé la frontière, ils nous ont laissé aux militaires français, et je suis libéré.
Dans l'émission quotidien de Yann Barthès, tu as évoqué le désert.
Il y a un personnage très important dans votre récit, ce personnage, c'est le désert.
Ouais. Bah, le désert, c'est magnifique, c'est grand, c'est beau, et c'est en même temps, en captivité, une prison, quoi, une prison formidable, enfin, c'est immense, et vous êtes infime dans ce tout immense, et on n'a pas de mur, mais c'est une prison d'une efficacité redoutable, et je vais m'en rendre compte en essayant de m'évader, justement, c'est-à-dire que sans eau, sans ressources, sans véhicule, en fait, c'est même pas une question d'eau, sans véhicule, vous faites quoi, je sais pas, 10 km, et puis après...
Il y a des bestioles.
Le désert a raison de vous.
Il y a des bestioles.
Il y a beaucoup d'insectes,
ouais. Ouais, il y a des bestioles, de scorpions, il y a des...
Dans le chapitre 9, Prison de sable, tu écris « Des paysages désertiques saisissants de beauté nous engloutissent. J'oublie la douleur qui irradie de mes mains à mes bras crispés. Je me concentre pour ne pas être éjecté par une secousse brutale. Mais pourquoi roule-t-il aussi vite? Les deux gros ravisseurs à l'intérieur du pick-up sont comme des coqs en pâte. Il est loin le temps où on ne devait pas faire voyager Zeytoun à l'arrière. Zeytoun, c'est toi.
Zeytoun, c'est moi. Zeytoun, c'est le captif, c'est l'otage. Zeytoun, c'est le fourre-tout à problème. Celui qui va me servir à certainement encaisser et à traverser tout ça. Et la scène que tu décris, Claudie, c'est justement une scène où c'est vrai, le désert pour le coup est magnifique, et j'ai essayé de le retranscrire en l'écrivant, c'est qu'on traverse pendant, je crois, 4 ou 5 heures des étendues désertiques magnifiques, le ciel est d'encre, des fois il est bleu azur, il pleut, enfin, c'est vraiment dingue, et je me dis c'est fou, enfin, c'est magnifique ce que je vois, et c'est à la fois terrible ce que je vis.
Ton regard sur le désert aujourd'hui, alors tu as écrit après ces 711 jours de captivité, ton regard sur le désert est toujours le même?
Ah oui. Oui. Non, mais pour moi, il y a une erreur, des erreurs, il y a une erreur humaine, il y a eu, voilà. Mais ça ne remet pas en question la beauté de la région, ça ne remet pas en question le Mali, ça ne remet pas en question, enfin voilà, rien du tout. C'est comme se prendre, trébucher, gros trébuchage sur un gros tapis. Et puis on met du temps à se relever. Mais voilà, les tapis sont toujours vendus, tout va toujours très bien. Enfin, y a pas de...
Je suis sûre qu'il s'est dit, je reviendrai avec mes enfants, mais dans d'autres conditions.
Mais j'espère pouvoir le faire. Peut-être quand tout ira mieux, quand ce sera possible, parce que c'est vraiment chouette à faire. On se disait ça avec mon co-détenu, ça me fait penser à ça. On disait, mais t'imagines si on vivait la même chose, mais pour 2-3 semaines et qu'on était touriste. Ce serait pas génial?
J'adore cette phrase. Olivier Dubois.
Voilà. Olivier, vous avez dit dans une interview, et vous nous l'avez répété aujourd'hui, que vous n'aimiez pas revoir les images relatant votre captivité et votre détention, car ça vous replongeait dans ce cauchemar. Mais c'est pourtant ce que vous avez dû faire pour l'écriture de votre livre, et avec détail, on l'a entendu avec la lecture de Claudie. Quels sont les sentiments que cela nourrit en vous? Et pensez-vous que cela a été salvateur, comme une thérapie? Ou avec du recul que c'était plutôt un exercice maso, nécessaire pour informer le public?
Alors pour moi, ça a été en tout cas au début un exercice pénible et douloureux. J'ai tourné en rond avant d'écrire. J'ai pas écrit le premier article, j'allais dire. Oui.
Journaliste un jour, journaliste toujours. Voilà.
Le premier chapitre, j'ai commencé par le quatrième. Pourquoi? Parce que le premier chapitre, c'était l'enlèvement et qu'il fallait revenir chronologiquement à tout ce qui s'est passé avant que je monte dans cette voiture-là. C'était douloureux parce que, évidemment, il faut faire revenir les souvenirs. Et avec les souvenirs, pour écrire un texte et montrer ce que c'est qu'une captivité, les émotions. Et donc, voilà. Moi, quand je suis sorti, je me suis préservé de ça en n'y pensant pas. et ben, fallait retourner, fallait faire face. Et oui, c'est certainement thérapeutique parce qu'on y fait face et on le décortique. Et certainement, on l'absorbe mieux, on le comprend, on le digère. Et voilà. Donc, ça a été thérapeutique et ça a été pénible et douloureux à faire. Et en même temps, c'est un grand soulagement quand c'est fini, quoi, quand vous écrivez les dernières lignes.
Parlons de thérapie. Il y a des sujets tabous, mais rares sont les personnes qui peuvent revenir sur un enlèvement aussi long. On ne pose pas assez la question de l'après, mais j'ai l'impression quand même que c'est vital. Aujourd'hui, après plusieurs années de votre libération, comment gérez-vous les traces laissées sur votre santé mentale? Et surtout, est-ce que vous avez des recours à des traitements ou à des pratiques spécifiques pour préserver votre bien-être psychologique?
Ça, c'est une sacrée question.
Ouais. Merci.
Je vous avais prévenu, les gars.
Non, faut la redire, c'est une sacrée
moi,
question.
Moi, qu'elle en parlait de moi, c'est parfait.
Mais je l'avais prévenu tout okay, à l'heure.
Okay. Je suis toujours suivi psychologiquement. Je ne prends pas de médicaments, je n'aime pas ça. Et ça mettra du temps, mais il y a la famille, il y a les enfants, et puis il y a une volonté de vouloir avancer. Mais c'est pas facile, mais voilà. En tout cas, il y a une volonté de vouloir avancer, c'est ce que je répondrais.
Alors, tout à l'heure, Claudie évoquait ce certain aplomb que vous aviez dès le départ, le début de votre captivité. Et je dois dire que je ne compte pas le nombre de fois où, en vous lisant, je me suis dit « Mais ce monsieur, il fait preuve d'une hardiesse impressionnante quand même. » Vous donnez l'impression d'être déjà en interview continue, vous insistez sur les questions, vous nommez vos geôliers alors qu'ils ne vous l'ont pas autorisé, juste parce que vous avez entendu leur prénom. Et puis surtout, vous évoquez votre liberté, vos droits en tant que citoyen français. Vous les accusez frontalement d'être des tueurs d'enfants, de femmes et de soldats musulmans, alors qu'ils affirment le contraire. Était-ce une simple déformation professionnelle, une stratégie mentale ou une inconscience kamikaze?
Moi, je pense que j'ai opté pour l'inconscience kamikaze, qu'en réécrivant le livre, quand j'y repense, j'en ai froid dans le dos. Je me dis, mais comment c'est possible? Et encore une fois, on revient à ça. On est dans une captivité, on est en mode survie, en mode lézard, et on fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vie normale. J'ai l'impression que je serais incapable de refaire ce que j'ai fait là. Mais on a l'impression que demain, ça peut s'arrêter, que cette nuit, ça va s'arrêter. Donc, on donne tout, si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que ça donne, oui, évidemment, cette impression-là oui. Et que j'ai pu faire des choses comme ça. C'est parce qu'on vit, tout. On ne sait pas si demain existera. On ne peut pas se projeter. Donc, à partir de là, on vit tout de suite. Une idée, voilà. C'est comme ça qu'on peut s'évader. Voilà.
Mais cette quête d'information continue tout le temps. Vous posez des questions, vous voulez savoir, vous insistez. C'est quoi? C'est un instinct de survie du journaliste?
Alors, c'est d'abord parce que je suis curieux.
Sinon, il ne ferait pas ce métier-là.
Et deuxièmement, c'est parce que justement, ça occupe l'esprit, quoi. Mmh. Ça permet de se fixer des buts, ça permet d'oublier qu'on a une chaîne à la patte, d'oublier qu'il y a des gens armés autour de soi, d'avoir des buts. Donc ça, voilà, ça force à se lever, ça donne des buts, ça donne des défis. Si vous les relevez, ben, vous êtes victorieux. Et c'est ça, en fait.
Alors, justement, parlant de ravisseurs rapidement, dans le chapitre Parfum d'ambiance, tu écris « Je sens la nervosité s'installer parmi eux. Au loin, un bruit de moteur se rapproche, un véhicule arrive et s'arrête près de nous. Je jette un coup d'œil furtif et aperçois deux inconnus en boubou bleu qui en descendent. Ils ne semblent pas vouloir venir à notre rencontre. L'un fait un signe à notre chauffeur qui s'avance vers eux, tandis que je reste assis malgré l'envie pressante de me dégourdir les jambes après avoir passé des heures dans le pick-up. » Lorsqu'on a une telle proximité, si je puis dire, avec ces ravisseurs, y a-t-il à un moment donné... C'est Ingrid Betancourt qui disait, qui racontait qu'il y avait il y a eu des couples qui se sont formés, il y a eu entre les hommes et des femmes qui étaient détenues par les FARC. Il y a des amitiés aussi très fortes. Est-ce qu'il y a une proximité qui pourrait confiner à l'amitié avec certains?
Alors, on m'a souvent posé la question.
Et oui.
Pour moi, j'ai pas connu de lien comme de l'amitié. Par contre, il y a des gens qui sont plus respectueux que d'autres, avec qui vous pouvez échanger. Mais le problème, c'est qu'on. Alors, si cette amitié existait, elle serait trompeuse, elle serait fausse, elle serait hypocrite. Parce qu'au même moment où je cause avec quelqu'un et qu'on peut avoir l'impression que je m'entends bien avec lui, je pense à m'évader, je pense à lui fausser compagnie, ou dès que ce serait possible, je le ferais. Donc, on est toujours dans un truc comme ça. On communique pour avoir des informations, pour obtenir quelque chose, mais. Il n'y a rien de l'ordre du sentiment amical. Non, pas vraiment. Ouais. Respectueux, respect, il n'y a plus à avoir ça. Ouais. Amitié, non.
Ouais. Et tu as tenté de t'évader.
Ouais.
Dans le désert.
Ouais.
J'aime bien comment...
Allez, dernière question, non. Très vite.
Non. Alors, 8 avril 2021, 20 mars 2023, si vous deviez légender cette période, quelle serait-elle?
En une phrase?
Ou en 10, comme vous voulez.
Une phrase, alors peut-être. La période la plus terrible et extraordinaire de ma vie. Je crois que je ne serais pas mieux après, vu ce qui s'est passé. La période la plus terrible et extraordinaire de ma vie.
D'accord.
Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda, aux éditions Michel Lafonce et l'ouvrage d'Olivier Dubois. Et c'est le moment de l'évolution.
Une question, une dernière.
Pardon ?
Une dernière.
Oui, non, mais tout à l'heure peut-être. Je dis bien tout à l'heure. Pour l'instant, là, nous avons les armes à la main pour la révolution des consciences.
La révolution des consciences.
Thomas Sidibé. Yes. Écoute ça.
Let's go.
Combien de temps faudra-t-il pour capter ce qui se trame, drame annoncé, tiens, la haine prend son pied. Chronique d'un cataclysme enclenché. La locomotive est cassée sans chauffeur. Les boutiques sont pleines, mais c'est le vide dans les cœurs. La loco est loca, elle file à toute allure. On se gave au buffet, mais on fonce droit dans le mur. La révolution commence, révolution des consciences. Nouveau destin, nouvelle chance. Allez, changeons la danse. La révolution commence, révolution des consciences. Rien à foutre de la croissance. On veut trouver du sens. Agleyara, Kayoro, Te, Bodi Urbana, Joyoro, Dinge, Cheubolila, Musoya Dala, Keyundafara, Keyundafara, Munde Banye Nabo, Jumbo Fo Joye, Munde Banye Nabo, Jumbo Fo Joye, Ambeta Kowa, Ambeta Nyewa, Ambeta Kowa. La révolution commence, révolution des consciences, nouveau destin, nouvelle chance, allez changeons la danse. La révolution commence, révolution des consciences. Rien à foutre de la croissance, on veut trouver du sens.
Révolution des consciences. Thomas Sidibé, est-il facile dans un monde à l'occidentalisation plus grande encore et face aux revendications de bien des peuples à travers le monde d'obtenir l'égalité, alors si ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité, est-il facile d'entamer cette révolution des consciences? Et fais-tu partie de ceux qui pensent que la culture, c'est l'identité, et avec la culture, on peut changer le monde?
Tout à fait.
Merci pour la question.
C'est toi qui nous l'inspire.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, oui, effectivement, il y a une espèce d'uniformisation. Moi, en fait, ça fait partie pour moi de la révolution des consciences. C'est cette espèce d'uniformisation que moi, j'ai envie d'exploser, en fait. C'est pour ça que je dis changeons la danse. Parce qu'on est tous, en fait, on fait tous le même pas de danse maintenant dans le monde, presque, tu vois. Oui. Donc, en fait, c'est important pour moi, effectivement, que chacun retrouve, effectivement, une identité culturelle. Et il y a tellement de richesses, tu vois, par exemple, au Mali. Chaque village va avoir ses propres chansons, ses propres danses, ses propres langues, des fois, tu vois. Tu vas dans le pays d'Ogon, c'est incroyable, chaque village a sa langue, tu vois. C'est fou. Et en fait, c'est ces richesses-là qu'on est en train de lisser, d'uniformiser. Et effectivement, je pense que la culture est une force pour cette révolution des consciences. Ça fait partie pour moi, en tout cas dans cette chanson, c'est une révolution culturelle, sociale, spirituelle et aussi écologique.
Alors, Stélina pour Thomas.
Les enfants, vous ne faites pas que les divertir. Hein. Vous êtes également, comme vous l'avez dit, le parrain de l'initiative Un hôpital pour les enfants. Quel est votre regard sur ces enfants qui se battent pour leur vie, d'une part, et pour ceux qui, d'autre part, d'autres enfants, entre guillemets, vous avez dit, il y a plusieurs sortes d'enfants, qui, comme lors de la fusillade de la couronnerie, brisent des vies et des familles. Donc, il y a ceux qui se battent pour leur vie et il y a ceux qui brisent ces vies-là.
Oh là, tu vas me ramener, non? Ouais. Écoute, les enfants à l'hôpital, souvent, je suis tellement émerveillé par leur force, par leur... Et puis, en fait, j'ai fait tout un spectacle où on a écrit des chansons avec les enfants hospitalisés, donc on rentre vraiment dans leur intimité, dans leurs rêves, dans leurs espoirs et tout ça. Et souvent, ils font preuve d'une force incroyable, quoi. Et effectivement, tu viens de rappeler un fait divers, malheureusement, on appelle ça comme ça, d'un jeune qui s'est fait tuer dans mon quartier à Poitiers, là où j'habite. Et malheureusement, le petit, il n'avait rien demandé au moment où il s'est fait tuer. Et le pire, c'est que c'est un autre gamin qui l'a tué. Et que là, c'est aberrant et c'est des gamins qui sont complètement paumés et qui en arrivent à faire vraiment n'importe quoi. Et nous, en tant que... avec notre conscience d'adulte et notre conscience de voilà, on est là aussi pour essayer de canaliser un peu les choses et de...
Bien sûr.
Ouais.
voilà, de leur apporter quelque chose, quoi, parce que c'est pas évident pour eux, ce monde.
Voici la chanson éponyme d'Akan, le titre, Thomas Sidi Bé. Écoute ça, extrait. D'accord, le titre. D'accord, l'album. Thomas Sidi Bé. 10 titres donc sur cet album. On le disait, c'est le 7e dans ta discographie. Il y a d'autres chansons qui ont retenu mon attention. Pour celles et ceux qui ont encore en mémoire le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Sur l'album d'Akan, il y a Love à Bamako.
Yeah.
C'est l'histoire d'amour aussi.
Ah ouais, les histoires d'amour à Bamako sont puissantes. Ouais. Attention.
Ouais.
Ah ouais, faut pas blaguer avec ça.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Bamako?
Alors, que dis-tu dans cette chanson, justement?
Non, en fait, là dans Love à Bamako, c'est plutôt une histoire de... C'est plutôt les histoires d'amour qui sont à distance, en fait. Mm. Tu vois, c'est l'histoire d'un jeune couple qui s'est rencontré... C'est une histoire que j'ai inventée, en fait.
Ouais.
Qui s'est rencontré à Bamako, et la fille part faire ses études en France. Et
ça, tu penses que c'est jamais arrivé, ça?
Mais ça arrive partout. Ça arrive tout le temps.
Merci.
Non, ça arrive tout le temps.
Merci, exactement. Il y a un titre également qui a retenu notre attention sur l'album, c'est le titre Frontières.
Ouais.
Où là, très clairement, c'est t'es presque tu avec Tiken, vous auriez pu faire un duo.
Ouais.
Tiken dit ouvrez les frontières, toi
carrément.
Tu chantes Frontières.
Ouais. C'est un beau texte que j'ai coécrit avec un auteur qui s'appelle Michel Robakowski.
Oui, qu'on entend là.
Et voilà, ça parle de c'est de la presque de la poésie sur une situation hyper hyper difficile, hyper dangereuse et hyper compliqué, qui est le fait de migrer d'un pays à l'autre par les voies clandestines, quoi. Ça parle de ça, la frontière.
Ouais.
Avec l'espoir de là-bas, c'est plus beau.
Alors, puisqu'on parle musique, il y a quand même Olivier Dubois, c'est un homme de musique. Le gars là, c'est un homme de musique, ce gars.
Oui.
Non,
mais
c'est
sûr,
vrai. Et donc, on t'a demandé, tiens, si tu voulais nous faire écouter quelque chose qui en ce moment est à choisir, Sampa the Great avec le titre Énergie.
Ouais. J'aime beaucoup cette chanson-là. J'aime beaucoup Sampa the Great.
Mm-hmm. Et puis Énergie en plus.
Oui.
Et puis écoute le flow, toi qui es un fan de hip-hop.
T'es
un fan de hip-hop. Écoute ça, extrait. These poor cop feminine life, bitch. My gosh, we raise you. Please sympathize with the lies we raise you. Please realize all the time. Olivier Dubois, prisonnier du désert, 700 jours aux mains d'Al-Qaïda. Et là, nous écoutons son choix musical. Est-ce qu'on a le temps? Bon, on va se faire, parce qu'on avait quand même pour vous, on va l'enregistrer. On avait un petit moment de bonus. C'est un moment de jeu et quiz.
Oula.
Et blind test.
On va pousser
les meubles de l'émission de vendredi et on diffusera la séquence donc vendredi.
Wow.
Non, mais parce que vous serez vous les invités face aux chroniqueuses.
Ok, super.
Bon. Ils ont pas l'air rassurés.
Thomas Sidi Bé, l'homme de scène, où peut-on t'applaudir bientôt?
Alors écoute, la tournée commence au mois de mai, ça va passer par Amiens, par Poitiers, par Rouen, je serai à Dubaï aussi en jeune public là en mois d'avril.
Ouais.
Et en jeune public, je suis un peu partout tout le temps, en fait.
Tu sais que tu peux revenir nous parler de la tournée, hein?
Ah ben avec grand plaisir.
C'est possible, hein?
Avec grand plaisir.
Olivier Dubois, donc prisonnier du désert, 700 jours aux mains d'Al-Qaïda. Il y avait encore plein d'extraits que j'aurais beaucoup aimé vous lire de cet album témoignage. Pardon, de ce livre.
Tu vois,
parce que c'est un homme de musique. Aux éditions Michel Lafon. Merci Stéphane, merci.
On se retrouve demain, hein.